60 seconds.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Voilà, nous y sommes 50 ans après la réussite de la mission Apollo 11. L'anniversaire sera célébré demain exactement. L'occasion était trop belle. Nous consacrons aujourd'hui les matins d'été à l'espace, alors à la Lune bien sûr, et à ce qu'elle a à nous dire encore. Car oui, elle nous parle et on verra ça dans une deuxième partie d'émission. On va d'abord s'intéresser aux enjeux géopolitiques du moment dans l'immensité de ce qu'on appelle l'espace extra-atmosphérique, aux différentes stratégies, aux nouveaux acteurs et aux perspectives que nous offre l'espace, tout en ayant à l'esprit bien sûr qu'en regardant l'espace, on s'observe nous-mêmes terriens. Et c'est précisément ce que nous allons faire avec notre premier invité ce matin, Xavier Pascaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur en 2017 aux éditions du CNRS de cet essai « Le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space ». Alors, puisqu'on est là pour un anniversaire, comment est-ce que vous voyez les 50 ans qui viennent de se passer, Xavier Pascaud, dans notre rapport à l'espace? Buzz Aldrin, il y a quelques jours, a dit qu'on n'avait fait aucun progrès en matière spatiale depuis ce jour-là, il y a 50 ans, où il a pu poser le pied sur la Lune en tant que deuxième homme.
Alors, en tant qu'astronaute, effectivement, en tant que deuxième homme qui a posé le pied sur la Lune, il peut effectivement considérer qu'aucun progrès n'a été fait. Alors, il reste qu'en réalité, l'espace s'est beaucoup transformé entre la période fondatrice des années 50, en pleine guerre froide, avec un club extrêmement restreint, en fait, deux pays, deux puissances qui s'affrontent. Et on est passé, ces dernières années notamment, il y a eu une accélération de ces transformations, mais on est passé à un milieu qui, désormais, héberge de plus en plus d'acteurs différents, d'abord de pays nombreux. Hein, aujourd'hui, il y a plus de 70 pays qui ont au moins un satellite en orbite. Alors, ils ne maîtrisent pas nécessairement le lancement de ces satellites, mais ils utilisent l'espace.
Il y en a une douzaine qui maîtrisent le lancement.
Voilà.
Qui sont autonomes.
C'est ça, qui sont autonomes d'une certaine manière pour lancer certains satellites. Certains peuvent lancer des satellites un peu plus gros, d'autres un peu plus petits, mais l'accès à l'espace, ça demeure un enjeu géostratégique.
Et c'est déjà beaucoup, 12, on n'aurait pas imaginé.
Absolument.
Ça il y a peut-être 15 ans.
Et ça, c'est quelque chose qui s'est accéléré parce que aussi les satellites à performance égale ont diminué de masse et de taille. Donc, ça permet de faire des lanceurs plus petits, donc plus facilement maîtrisable en termes de technologie. Donc tout ça évolue. Et puis des acteurs privés qui sont arrivés, nouveaux. Alors l'industrie a toujours existé dans le domaine spatial. C'était plus une industrie sous-traitante des grandes agences. Là, on a des acteurs privés un petit peu haut en couleur, qui viennent d'ailleurs de l'extérieur du spatial.
Qui prennent des initiatives.
Prennent des initiatives, qui même ont des visions, presque des visions de société d'ailleurs, auxquelles il faut vraiment prêter attention, parce qu'elles sont quelquefois un peu troublantes.
On va y revenir et on va y prêter attention.
Et qui ont des capacités. Donc ça, c'est un peu nouveau.
Entrons dans le détail des différents acteurs et commençons par l'Europe peut-être. L'Europe spatiale qui va peut-être pas très bien en ce moment. La panne de Galileo là, ces derniers jours, l'a démontré. L'explosion de la fusée Vega, il y a aussi quelques jours, en a été une autre illustration. L'Europe spatiale, bof bof en ce moment.
Alors bon, il faut distinguer, je pense que vous avez raison de citer ces deux exemples qui sont, bon, ça ce sont des choses qui arrivent dans le spatial. Hein. Tous les pays ont parfois fait exploser un lanceur. Bon, malheureusement, la science des fusées, ça reste quelque chose de compliqué. Galileo, c'est un tout petit peu plus embêtant parce qu'effectivement, la panne qui a duré presque une semaine est une panne qui finalement met en doute d'une certaine manière ou peut contribuer à mettre en doute la capacité de l'Europe à assurer un service continu. Même si bon, les choses ont été réglées, il faudra voir quelles sont les origines.
En deux mots, Galileo, c'est le système de positionnement qui est concurrent au GPS
américain. Le GPS européen, comme on dit souvent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 5 systèmes de positionnement, un système russe, un système chinois, une ébauche indienne, un système européen presque complet, puis le GPS.
Et cette panne, alors ça s'est un peu amélioré hier, mais cette panne est quand même, vous le dites, un peu embarrassante parce qu'il y a des enjeux stratégiques extrêmement importants dans le positionnement. Galileo est un peu plus précis que le GPS.
Est un peu plus précis que le GPS, c'est quelque chose sur lequel l'Europe a beaucoup misé. Aujourd'hui, vous savez que ce type de programme, c'est non seulement pour se localiser, ça c'est l'idée qu'on en a en tant qu'utilisateur lambda, mais c'est surtout des systèmes de synchronisation des réseaux. On vit dans un monde de l'information et là il y a des enjeux très importants. Donc il faut démontrer sa capacité à avoir des infrastructures très solides dans ce domaine. Mais ça je dirais que ce sont des aléas techniques, malheureusement on va voir les origines, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. En revanche, effectivement, l'Europe aujourd'hui est sans doute un peu au milieu du guet avec finalement un budget qui reste constant, un soutien qui reste constant, beaucoup de prouesses technologiques et scientifiques qui ont été accumulées dans l'histoire de l'espace européen. Mais sans doute aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une résurgence de volonté nationale et américaine et chinoise et autres au milieu desquelles se trouve l'Europe et doit elle-même construire sa propre volonté régionale, on va dire, multinationale. multinationales. C'est ça un peu la difficulté d'ailleurs dans l'espace, que ce soit pour les satellites, que ce soit pour l'exploration.
On va voir comment l'espace européen se divise parfois. Peut-être vous dites budget constant, mais le chiffre d'affaires quand même de l'industrie spatiale européenne, lui, a baissé l'an dernier. 3%, c'est la première baisse depuis plus de 10 ans.
Alors voilà, parce que...
Ça, c'est un signe aussi qui n'est pas très bon.
Alors voilà, j'évoquais, alors c'est pas nécessairement une baisse de soutien public, mais en revanche, c'est vrai qu'on a des transformations sur le marché aussi de l'espace. Vous savez que l'industrie spatiale, notamment dans le domaine des satellites, repose beaucoup sur les satellites de télécommunication. On a beaucoup produit de satellites pour la télévision, notamment, pour produire de la télévision. D'abord, on ne consomme plus la télévision de la même façon. Aujourd'hui, on consomme beaucoup Internet, et ça change un peu le rapport.
Internet, c'est pas trop les satellites, c'est plutôt les câbles.
Ben voilà, c'est plutôt les câbles, et donc voilà. Et puis, on a aussi, en matière de satellites géostationnaires, donc les gros satellites avec lesquels on gagne beaucoup d'argent, il y a une baisse tendancielle du marché qui va peut-être rebondir, mais qui pour l'instant met l'activité dans un creux.
Alain Charmeau, le président d'Ariane Group, cité par l'Opinion ce matin, dit que le programme Ariane 6, dont le premier lancement est prévu pour dans un an, assez exactement un an, va devoir être deux fois moins cher. Et il ajoute qu'il y a 30 ans, on sent un peu d'amertume, alors je sais pas, on va pas interpréter ses propos, mais il dit qu'il y a 30 ans, c'était pas l'objectif du spatial de faire des coûts moindres et de travailler avec des budgets en baisse.
Alors, ça aurait quand même dû l'être un peu. Mais effectivement, il y a 30 ans, le spatial, c'était d'abord une affaire de gouvernement et d'investissement politique. On faisait du spatial non pas pour gagner de l'argent, on ne gagne pas nécessairement d'argent avec le spatial. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui exploitent éventuellement les émissions des satellites géostationnaires qui vont faire des diffusions de télévision avec. Ce sont les opérateurs en aval. Mais en revanche, les constructeurs de satellites, les constructeurs de matériel ont toujours reposé sur l'investissement public. Et donc, on avait surtout le souhait de faire des choses qui marchent, qui ne tombent pas en panne, qui soient alors évidemment très chères. Bon, aujourd'hui, on se trouve confronté, alors de manière un peu ambiguë en réalité, à des acteurs nouveaux qui disent vouloir gagner de l'argent et qui disent vouloir être rentable. On se rend compte que c'est un peu faux en même temps, hein, qu'on prenne SpaceX aux États-Unis par exemple. Eh bien, quand SpaceX vend un vol, donc SpaceX c'est Elon Musk, fabrique des lanceurs notamment, mais aussi des satellites maintenant, quand il vend un vol à la NASA, il le vend deux fois plus cher que quand il vend un vol à un client commercial. Donc on voit bien que les prix ne sont pas une concurrence pure et parfaite, on va dire. Mais en même temps, on joue un peu ce jeu et il y a une pression générale pour l'abaissement des coûts.
Ouais, et pourtant, les coûts, alors effectivement, vous disiez, il y a 30 ans, on aurait pu aussi imaginer être un peu plus économe, mais c'est ce qui a permis aussi cette masse d'argent d'obtenir tous ces résultats et de faire tous ces progrès.
Bien
peut-être
sûr.
Qu'aujourd'hui, on va devoir freiner un peu les ambitions.
Alors voilà, on va devoir freiner les ambitions, mais je dirais plus largement, on va devoir comprendre pourquoi finalement on veut être dans l'espace finalement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une puissance régionale comme l'Europe, comme les États-Unis, comme les puissances nationales américaines, chinoises, pourquoi les gens vont dans l'espace? Donc on a, besoin d'une vision politique, besoin d'un débat peut-être, d'un débat public sur ces questions-là. Est-ce qu'on veut faire de l'exploration? Aujourd'hui on voit beaucoup de programmes qui se réorientent vers la Lune par exemple. Et à la Lune, il y a ce qu'on va y faire et puis il y a aussi ce qu'on va développer pour le faire. Ce qu'on va développer, c'est aussi de l'investissement en matière de ce qu'on appelle la R&D, la recherche et développement, avec des retombées industrielles, des tombées scientifiques. Donc tout ça, ça se juge, je dirais, largement par au prisme de l'intérêt stratégique global. Et ça, c'est vraiment une discussion que l'Europe doit avoir.
L'espace est toujours, ou plus que jamais, diriez-vous, Xavier Pascaut, un moyen de puissance?
Alors, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça l'a été au moment de l'équilibre stratégique, hein, chacune des puissances observées, etc. Ça l'est sous une forme un peu différente aujourd'hui. Ça subsiste toujours, les intérêts militaires, etc. Mais surtout, l'espace aujourd'hui, on le voit bien ces dernières années, c'est rapproché du monde de l'information, au sens large. Et le monde de l'information aujourd'hui, c'est aussi du pouvoir. C'est pas seulement du pouvoir, c'est du marché, c'est de l'économie, mais c'est aussi du pouvoir. Et l'espace, en tant qu'élément de ces chaînes, de cette chaîne de l'information, de ce monde de l'information, bien évidemment, prend une dimension particulière. Les pays finalement qui maîtrisent l'espace sont les pays qui sont technologiquement avancés, qui sont financièrement puissants et politiquement normatifs. Donc c'est ceux qui font la règle du jeu en fait. Et à ce titre, développer du spatial aujourd'hui, c'est être en tête un peu dans le peloton des pays qui ont une espèce de pouvoir international. Et ça, c'est vraiment l'espace, c'est de la stratégie.
Il y a encore aussi du symbolique beaucoup. Vous avez évoqué la guerre froide qui effectivement a été le moteur de la conquête de la Lune notamment. Mais il y avait beaucoup de symbolique à l'époque. Il y en a encore aujourd'hui?
Il y en a encore aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit, et je l'évoquais à l'instant, le retour en grâce de la Lune, si j'ose dire, au moment des 50 ans. Mais cette fois-ci, on dit c'est pour y rester. C'est plus une course, c'était plus un modèle, un affrontement de modèles. C'est plutôt un affrontement de puissance ou plus ou moins une installation de puissance en parallèle. Et ça, effectivement, c'est aujourd'hui sans doute aussi une forme d'affirmation politique évidente.
C'est un véhicule incroyable et il va aller sur la Lune. Pour ceux d'entre vous qui font le calcul, cela signifie 2024. Nous pouvons respecter ce calendrier après avoir lancé le projet il y a 3 ans. Il est temps de retourner sur la Lune, mais cette fois pour y rester.
Voilà, c'est Jeff Bezos qui parle de son véhicule lunaire Blue Moon. Jeff Bezos, c'est le PDG d'Amazon et de Blue Origin. C'est ce genre d'acteur nouveau aussi qui perturbe considérablement ou qui favorise considérablement les opérations spatiales.
Les deux,
mon capitaine.
C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un comme Jeff Bezos, par exemple, investit chaque année 1 milliard de sa fortune personnelle dans son entreprise Blue Origin. 1 milliard, c'est un budget digne d'une agence spatiale.
C'est un État, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est un budget étatique, ou tout au moins une fraction importante d'un budget étatique moyen en Europe. Il investit plus de sa propre fortune que certains pays européens aujourd'hui n'investissent dans l'espace. Et d'une certaine manière, c'est à la fois pour les États-Unis évidemment une opportunité d'avoir cet afflux d'énergie, de ressources, d'argent, etc. Et c'est aussi une gêne d'une certaine manière. C'est-à-dire, ce qu'on voit aujourd'hui quand on regarde la politique spatiale américaine, c'est que les autorités publiques, l'État, le gouvernement, est en train de réadapter ses relations avec ce type d'acteurs pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Ça veut dire sans doute réinventer des relations avec des industriels qui commencent à avoir des ambitions et qui aussi, eux, font le lien entre ces activités-là et leurs intérêts personnels, leurs intérêts propres, y compris leurs intérêts de business. Donc tout ça se réorganise.
On voit bien que ça peut poser un problème. Là, il y a un système qui est beaucoup moins régalien, du coup. Ça veut dire quoi? Que ces entreprises, alors, vous avez cité Elon Musk, on vient d'entendre Jeff Bezos, il y en a d'autres. Mm-hmm. Il y a des entreprises aussi qui commencent un peu à émerger en Europe, mais très peu. Est-ce que ça va pas partir dans tous les sens avec peut-être parfois aussi des Californiens avec des visions un peu...
Alors l'espace, ça reste quand même. Alors c'est là où effectivement il faut pas le new space comme on l'a appelé. Il faut pas jeter le space avec l'eau du bain, j'allais dire. Le new space c'est aussi une forme d'affichage. On se rend compte que ces entreprises aujourd'hui en réalité ne pourraient tenir sans
la commande publique.
Donc ça c'est clair. Ils ont simplement une posture différente des industriels qui étaient des industriels classiques de l'armement qui attendaient les commandes publiques et qui faisaient ce qu'on leur disait de faire. Donc c'est fondamentalement en fait un réarrangement, je dirais, de la relation publique-privée aux États-Unis. Alors là, qui est très très propre à ce pays, parce que c'est une culture particulière, politique, etc. En Europe, on a... Alors en Chine, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Chine, il commence à y avoir des petites entreprises New Space, mais on sent bien que là, évidemment, tout ça est très très coordonné. Et puis en Europe, on essaye de monter ça. À nouveau, j'insiste sur le fait que tout ce mouvement, enfin une partie de ce mouvement, est très très basé sur l'existence d'un secteur informationnel, enfin des technologies très fortes aux États-Unis, l'Internet, etc. Donc tout ça est quand même très américain à ce stade.
Ouais. En Europe, il n'y a pas de privé tourné vers l'espace ? J'évoquais tout à l'heure une petite entreprise, notamment à Berlin, qui commence à vouloir développer un atterrisseur, je crois, pour transporter du matériel
oui.
sur la Lune.
Alors, on a
ça,
même...
c'est crédible ou c'est encore on est non, à des années-lumière de ce qui se passe aux États-Unis ?
Alors, technologiquement, c'est éventuellement possible dans quelques années, mais il faudrait trouver des justifications vraiment pour le faire. On imagine, on projette une sorte d'activité économique sur la Lune, pour l'instant, on n'y est pas. Un point intéressant, c'est que le Luxembourg, par exemple, en termes étatiques, a décidé d'autoriser l'exploitation commerciale au même titre que les États-Unis et que sans doute les Émirats Arabes Unis bientôt, l'exploitation commerciale de la Lune, des astéroïdes, etc. Ce qui est un truc un petit peu nouveau quand même. On ne sait pas exactement où ça va mener.
La Lune, justement, tiens.
L'image est là. Vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. L'image n'est pas tout à fait nette, mais nous avons Armstrong de face. Il allait 2 pieds sur le sol lunaire.
Il marche.
Armstrong marche, il a fait à peu près 1 pas maintenant, il est à un peu plus d'un pas de l'échelle du LEM et il avance encore une fois avec beaucoup de précautions.
On dirait un scaphandrier. Au début, Armstrong doit d'ailleurs tester son équilibre et évaluer à peu près la vitesse qu'il empruntera pour marcher sur la surface lunaire.
Voilà, reportage il y a tout juste 50 ans, au moment où Apollo 11 venait d'allunir. La Lune, vous venez de faire allusion aux velléités exploratoires, Xavier Pascal, qu'on peut avoir vis-à-vis de la Lune. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ce 8e continent, comme l'appelle Bernard Fouingue, l'astrophysicien, est vraiment désirable et vraiment... Elle est rentable, peut être rentable.
Je pense, alors moi je suis pas spécialiste scientifique de la Lune, je pense qu'il y a des choses à explorer et à mieux connaître. Finalement, on y est allé 6 fois de manière extrêmement limitée finalement. Et je pense que plus fondamentalement, pourquoi retourne-t-on sur la Lune aujourd'hui? C'est quelque chose de très politique. On est allé d'abord, première fois sur la Lune pour une raison très politique, l'affrontement avec l'Union soviétique, même s'il y a eu des velléités de coopération, mais à un moment donné, il fallait affirmer le modèle d'ailleurs capitaliste sur le modèle communiste, c'était à ce niveau que ça se jugeait. Et puis dès que la case a été cochée, si j'ose dire, bah, le programme civil d'exploration a été laissé de côté aux États-Unis. Voilà, la NASA a essayé de survivre, etc. Et puis ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2004, George W. Bush a fait un discours pour relancer le programme lunaire. On l'oublie un petit peu aujourd'hui parce qu'on est un peu focalisé sur ce qui se passe. Mais et pourquoi finalement? Il y avait eu l'accident de Columbia en 2003, puis surtout le taïkonaute chinois en octobre 2003, qui nécessitait une forme de réaction de la part de l'exécutif américain, qui quand même se perçoit toujours dans une forme de compétition. Et puis Barack Obama, lui, a fait campagne un peu contre ça pour dire finalement il y a peut-être d'autres priorités. Et puis c'est sans doute sous-financé, donc il a abandonné ce programme. Et là, on se retrouve dans une administration nouvelle qui, alors il y a un peu un jeu de ping-pong politique avec une posture, on va dire, vis-à-vis d'un électorat particulier, etc. Bon, il y a ça. Il y a les enjeux internationaux. La NASA, effectivement, commençait, alors dans le contexte que j'ai décrit avec les acteurs privés, à avoir un rôle un petit peu compliqué, finalement sans réel but. Il n'y avait plus la Lune, donc Mars était très très loin. Donc on disait, ben voilà, faites de la technologie, puis le jour viendra, vous pourrez peut-être l'utiliser pour aller sur Mars. Ça, pour une agence spatiale, c'est pas terrible. En particulier, quand elle se trouve confrontée à des acteurs qui ont des visions nouvelles, qui, du coup, prennent un peu sa place, symboliquement. Et donc, redonner la Lune comme objectif, je dirais, redonne aussi à la NASA, à replacer la NASA dans une espèce de feuille de route. Derrière la NASA, aujourd'hui, on voit se réaligner bien ces acteurs privés dont j'ai parlé qui disent bah, nous, on peut peut-être aider. Puis les grands pays.
Et puis tous ces pays, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a les États-Unis, effectivement. Alors, c'est avant 2024 que Mike Pence
a accéléré un peu les choses.
Promis, parce qu'il y a évidemment l'élection qui va arriver. L'Inde, qui a voulu lancer, bon, ça n'a pas marché tout de suite, un nouveau voyage vers la Lune. La Chine, qui vient d'explorer la face cachée. Le Japon, la Corée du Sud. Il y a énormément d'acteurs. C'est bien parce qu'il y a des enjeux qui sont au-delà du politique.
Bien sûr. Alors, et puis c'est surtout parce que les pays que vous avez cités, y compris la Chine, alors la Chine en particulier n'est pas dans une logique d'affirmation de puissance, elle est juste dans une logique d'affirmation d'identité de grande puissance. Je dirais que c'est un peu différent. Et donc il y a cette idée de toute façon de faire atterrir bientôt dans quelques années peut-être des taïkonautes sur la Lune et de les faire rester là. Donc on est un peu dans cette logique. Alors derrière effectivement on invoque, alors on dit ben voilà, la Lune ça peut être tremplin pour aller sur Mars et on pourra utiliser par exemple des réserves en eau qu'on soupçonne sur la Lune. Tout ça reste très conjectural. Quant à en faire un business économique, pour l'instant on n'y est pas. Mais on voit bien qu'il y a la volonté de recommencer quelque chose de nouveau. Et puis il y a quelque chose d'autre, c'est que pour aller sur la Lune et pour y rester, il va falloir développer de l'infrastructure dans l'espace Terre-Lune. Et ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'infrastructures.
Les industriels sont notamment, c'est ça ?
Bien sûr. Alors il y a cette idée d'une. Alors pour 2024, elle sera peut-être pas au rendez-vous, mais il y a cette idée de faire une sorte de hub lunaire finalement, où les gens partiront de la Terre, iront sur la surface de la Lune, reviendront. Donc tout ça, c'est de la logistique. D'une certaine manière, Jeff Bezos, quand il pense à ça, il pense logistique.
Ouais, donc, il pense business.
Il pense business. Et puis R&D stratégique.
L'Europe dans tout ça, Xavier Pascaud. Comment est-ce que la France pour partir de ce pays, contribuer à une politique spatiale européenne qui reste encore un peu à définir. Il va y avoir une réunion en novembre de l'Agence spatiale européenne et des pays autour. Bon, comment est-ce que la France peut laisser un peu de souveraineté, un peu plus encore de souveraineté dans ce grand tout européen?
L'idée, c'est quand même effectivement de ne pas laisser l'Europe être marginalisée dans ce grand effort qui va être un effort un peu fédérateur. Donc, d'ores et déjà, hein, l'Europe, vous le savez, participe à des éléments techniques clés du vaisseau Orion américain, etc. Et le cas échéant, à quelques petites idées pour développer des véhicules qui aideront ce programme à se mettre en place. Mais on voit bien que la difficulté aujourd'hui, c'est de définir une politique spatiale propre dans ce domaine. On n'a jamais eu cette tradition d'envoyer des hommes dans l'espace de manière autonome, par exemple. On n'a pas de lanceur qui soit prévu pour ça. Et ce sera sans doute pas en discussion dans les prochaines rencontres européennes.
Ça n'aurait pas d'intérêt ?
Alors, c'est ça, je dirais, à la limite, ce serait au débat un peu démocratique de trancher. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un intérêt d'envoyer des hommes dans l'espace? Enfin, c'est aussi un choix de société. L'Europe, il faut remarquer une chose. D'abord, elle est très bonne techniquement. Elle saurait faire toutes ces choses-là. Elle a concentré ses efforts sur l'auscultation de la planète. Finalement, l'Europe, elle se pose un peu en ange gardien de la planète pour suivre les évolutions environnementales, etc. Et ça, elle en a, ça, c'est aussi une posture d'une certaine manière. Mais évidemment, c'est beaucoup moins sexy, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins vendeur que quelque chose, alors, surtout au moment des 50 ans temps d'Apollo. Donc aujourd'hui, c'est vrai, l'Europe doit sans doute se déterminer sur l'exploration de manière plus fondamentale, ça c'est clair, comprendre ce qu'elle veut être d'ici une vingtaine d'années dans l'espace, une puissance importante ou une puissance coopérative. De toute façon, on ira collectivement. Enfin, même les États-Unis, alors si, même si en ce moment il y a vraiment une concentration sur l'aspect américain des choses du outre-Atlantique, il y aura de toute façon une coopération. On se dirige nécessairement vers une forme de coopération.
Sur les abandons de souveraineté ou sur... parce que quand on parle de politique spatiale, il y a le mot politique, évidemment. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que la France peut encore faire du chemin pour travailler peut-être un peu plus dans le cadre de l'Agence spatiale européenne? C'est une question qui vaut pour les autres pays. C'est une question qui vaut aussi dans un cadre de Brexit. Enfin, l'Europe va pas très bien en ce moment.
Bien sûr. Alors, en plus, vous l'évoquez, le Brexit... ça nous montre deux choses. C'est une chose, c'est qu'on a l'Agence spatiale européenne d'un côté, puis l'Union européenne aussi, qui est un acteur très différent. Alors l'Agence spatiale européenne, ça, on y participe. Hein, le CNES y consacre la moitié de son budget quasiment. Donc on est aujourd'hui le premier acteur spatial européen. En termes d'effectifs, par exemple, d'emploi, la France est le premier, je dirais, bénéficiaire de l'effort spatial européen. Alors il y a l'Agence spatiale européenne qui fait très bien ce qu'elle fait. On a l'Union européenne qui a deux programmes aujourd'hui phares qui sont Galileo et Copernicus, qui est un programme d'observation de la Terre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tension entre ces deux institutions. Donc, il y a à la fois, c'est presque triangulaire, je veux dire, il y a les États membres, et la France en particulier, qui a vraiment un intérêt très fort là-dedans, notamment industriel. Et puis, il y a ces deux entités, Union européenne, ESA. Et tout ça, se parle un petit peu difficilement parfois.
Et le Brexit ?
Alors, le Brexit, au niveau de l'ESA, ça ne pose pas de problème, puisque finalement, l'ESA est une organisation intergouvernementale en dehors de l'UE. Alors, au niveau de l'UE, on a effectivement des Britanniques qui disent, puisque c'est comme ça, je veux faire mon Galiléo moi-même, etc. On n'en est pas là, certainement, mais il y a des petites tensions. Alors là, on voit bien qu'on va se diriger vers des accords ad hoc, sans doute, sur certaines choses. Les Anglais ont beaucoup de compétences dans un certain nombre de domaines. Il reste qu'aujourd'hui, c'est pas l'acteur, je dirais, clé du spatial européen.
Ouais, on voit bien que l'espace dit beaucoup de nous et de nos petites politiques. Merci, Xavier Pascaux. Vous restez avec nous, cela dit, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Nous poursuivons cette discussion juste après le journal de Claire Flochel. Il est 8h sur France Culture. La suite des matins d'été, nous retrouvons Xavier Pascaux, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des questions spatiales, en compagnie pour cette deuxième partie d'entretien de Philippe Hénarejos. Bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, merci de nous avoir rejoints. Nous disions avant le journal de 8h que l'ensemble des activités humaines se trouve impacté par ce qui se passe au-dessus de nos têtes, à moins que ce soit l'inverse. Satellites d'observation, de communication, d'analyse de surveillance, on voit que l'espace est bel et bien un champ de l'activité humaine. Alors il est parmi les activités humaines, évidemment, une qui est importante, c'est la guerre. L'espace est aussi un espace de militarisation. Xavier Pascaux, comment est-ce que les choses peuvent, en quelques mots, se définir? Ce champ-là est toujours aussi important, aussi exploré.
Oui, vous avez raison de dire ça. En fait, l'utilisation de l'espace est d'abord née de la volonté de l'utiliser à des fins militaires. Quand c'est né dans les années 50, faut rappeler, c'était la guerre froide, et le but c'était de surveiller l'adversaire stratégique. Donc les États-Unis surveillaient l'Union soviétique surveillait les États-Unis. Et des deux côtés, ces efforts qui étaient mal connus, puisque par définition un peu secrets à l'époque, en réalité, ont constitué le socle de l'industrie, de l'effort. Et je dirais le sommet de l'iceberg, ça a été Apollo, mais tout ça était sous-tendu par des technologies qui étaient toujours militaires de toute façon. Aujourd'hui, on a toujours ce type d'activité. Et puis, les grandes puissances ont pris conscience que l'espace pouvait même servir à mener des opérations militaires, les aider dans leurs opérations militaires, on dit les opérations extérieures, par exemple.
C'est Ronald Reagan qui a lancé ça ou c'est,
alors, Ronald Reagan, c'était plutôt, on était toujours dans le contexte très stratégique. L'idée, c'était de faire un bouclier antimissile pour éviter que les missiles soviétiques ne puissent venir frapper les États-Unis. Tout ça n'a pas vraiment donné de résultat d'un point de vue opérationnel. En revanche, ça a été un véritable vecteur considérable de fonds, de financement pour de la recherche, du développement des hautes technologies qui ont donné l'Internet, qui ont donné plein de choses aujourd'hui. Et donc, il y a toujours des retombées indirectes de ces investissements qui sont massifs, qui font travailler des centaines de milliers de personnes aux États-Unis. Donc, tout ça est toujours quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit.
Alors, l'espace est né en partie à cause ou grâce à la guerre. Philippe Hénarejos, assez vite, on a quand même aussi adopté un certain nombre de traités pour tenter de pacifier l'espace, ou en tout cas pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas un champ de bataille absolu, parce qu'on a peut-être un peu eu peur aussi à un moment donné.
Alors il y a eu un traité qui a été élaboré et signé en 1967 sur justement l'appropriation de l'espace et surtout Ce traité, il est assez court, en fait, quand on le lit. Il n'y a pas beaucoup d'articles. Il définit surtout le fait qu'on ne peut pas emporter dans l'espace des armes de destruction massive. Ça ne dit pas des petites armes. Hein. C'était à l'époque, on redoutait la bombe atomique, l'arme de destruction massive par excellence. C'était ça. Et ça ne disait rien sur le reste de la militarisation. Et par exemple, dans les années 70, les Russes ont expérimenté un canon sur l'une de leurs stations spatiales. On l'a su bien plus tard. Alors ça, ils l'ont expérimenté après que les astronautes soient partis, etc. Mais c'était une station spatiale mitrailleuse, si vous voulez.
Un canon pour tirer sur la Terre, c'était du...
Non, c'était pour tirer entre satellites au cas où.
Espace-espace. C'est ça, missile espace-espace.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce traité prend place précisément dans la période de guerre froide, où finalement les deux puissances se rendent compte qu'il faut un peu sanctuariser l'espace. Parce qu'en réalité, c'est d'intérêt mutuel que de garder ces satellites respectifs, actifs, pour pouvoir se surveiller et faire marcher la dissuasion. Donc ça, c'est clair. Ce qui a changé un petit peu, alors ça existe toujours, mais depuis, on mène des opérations militaires, depuis la guerre froide, le conflit irakien au début des années 90, les Américains notamment sont aperçus qu'ils pouvaient utiliser l'espace pour faire d'autres choses, pour servir, pour l'intégrer dans leur dispositif militaire. Et du coup, ils ont cette perception d'une plus grande vulnérabilité, leur satellite pourrait être ciblé, etc. Et donc, on a vu augmenter un petit peu la tension dans ce domaine.
C'est les mêmes techniques, en fait, qu'au sol, non ? Les techniques militaires, les techniques de dissuasion, vous l'avez
évoqué ce mot. Voilà, on reflète, c'est un miroir, effectivement, de ce qui se fait au sol.
Ouais. Dans ces traités, il y a quand même aussi l'idée selon laquelle il faut quand même tenter de pacifier l'espace, de coopérer aussi. L'espace, le vide n'appartient à personne et les corps célestes appartiennent à tout le monde, c'est ça aussi, l'esprit un peu...
C'est l'esprit. Alors, les Américains ont une interprétation un tout petit peu différente. mais c'est quand même l'esprit.
Ouais. C'est quoi leur interprétation?
Ils disent effectivement c'est pas tout à fait un bien commun. On doit pouvoir quand même l'exploiter. Ils ont d'ailleurs passé une loi en décembre 2015 pour exploiter les astéroïdes, etc. On n'en est pas là. De toute façon, techniquement, tout ça est très loin. Mais enfin, bon, il y a une petite tension.
C'est ça, le traité était assez sibyllin là-dessus. Il stipulait la non-appropriation des corps célestes, mais pas de leurs ressources. Donc, vous voyez, il y a une espèce de vide juridique qui tente d'être exploité aujourd'hui notamment par les États-Unis.
C'est bien eux qui ont planté un drapeau quand même sur la Lune.
Oui, mais les gens qui plantent le drapeau sur l'Everest ne se l'approprient pas forcément. Donc ça avait une portée symbolique à l'époque.
Oui.
Non, le Congrès souhaitait absolument que ce soit un drapeau américain quand même. Parce qu'un drapeau des Nations Unies, c'était quand même un peu...
Ça a été évoqué à l'époque. Il y a eu des discussions en interne à la NASA et c'est allé jusqu'au Congrès américain. Il y avait des gens qui disaient ce serait quand même mieux qu'on mette le drapeau des Nations Unies. Puis à la fin, les congressmen américains ont dit non, c'est nos impôts, donc c'est un autre drapeau.
Philippe Hénarajos de Ciel et Espace, vous disiez tout à l'heure qu'on a découvert bien longtemps après l'existence d'un canon russe. Est-ce qu'il a fonctionné d'ailleurs
Je crois qu'il a été testé, effectivement. Après le départ des cosmonautes russes qui étaient à bord de la station Salyut, je ne sais plus ce que ça a donné. C'était pas très probable, en fait.
Qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on devrait savoir de la guerre de l'espace aujourd'hui, de la guerre des étoiles, pour reprendre l'expression de Ronald Reagan en 83? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de nos têtes en matière militaire?
Alors en matière militaire, mais plus largement en matière spatiale, ce qu'on peut dire, et c'est ça qui aujourd'hui finalement motive les militaires pour se réorganiser, etc. L'espace est moins lisible qu'avant. L'espace devient et va devenir à terme beaucoup plus peuplé, avec des objets de toute nature, de toute taille, qui vont d'ailleurs appartenir à des acteurs très divers, des acteurs militaires, mais aussi des acteurs non militaires, voire des acteurs privés. Il y a de plus en plus d'acteurs privés. Et il y a cette crainte finalement d'un effet de cisaillement entre d'un côté une dépendance croissante vis-à-vis de moyens spatiaux nationaux pour mener des opérations, et puis un environnement qui change à une vitesse accélérée et qui crée ce déficit de lisibilité. Et donc aujourd'hui, on voit bien dans les principaux pays, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde aussi, qui parle d'un Space Command désormais, et puis on a cette annonce en France, on voit bien que l'idée, c'est quand même de s'adapter à ça. Et en s'adapter, d'abord en se réorganisant, puis en organisant les moyens pour mieux connaître, par exemple, la première étape, ça va être mieux connaître ce qu'on appelle la situation spatiale. C'est-à-dire avoir des détails plus précis sur ce qui se passe et sur ce qui, finalement, va causer éventuellement la panne de votre satellite. Ouais.
Mais on n'a pas de carte d'état-major de l'espace. Il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas. Il y a une opacité...
Absolument. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Les objets petits échappent finalement à la détection. Donc, on détecte des gros objets, mais on ne détecte pas tout.
Philippe Hénarajos.
Oui, il se passe des nouveautés, en fait, sur le plan militaire. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais par exemple, on a vu récemment des satellites s'approcher, deux satellites d'observation militaire, notamment français, et puis d'autres nations. Alors, chacun regarde un peu l'autre, on dit « Ah, c'est les Russes, c'est les Chinois ». Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais il se passe des choses nouvelles, des satellites qui pourraient approcher d'autres, peut-être pour exploser à côté et les détruire, ou les rendre inopérationnels par des brouillages quelconques. Voilà, ça se développe. Il y a une guerre froide, parce que c'est pas à coup de canon, qui se joue pour avoir une espèce de suprématie et un contrôle de l'accès à l'espace, de l'espace et de l'utilisation de l'espace pour des fins stratégiques et militaires.
Et ça donne ce genre de déclaration.
Pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain. Au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace.
Le ton légèrement martial du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a annoncé quelque chose d'extrêmement important, une nouvelle division dans l'armée française.
Oui, Xavier Pascaux, ce commandement...
Je vous sens un peu sceptique.
C'est surtout que ce commandement existait déjà en réalité, mais sous forme beaucoup plus réduite et de manière ce qu'on appelle interarmée. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment effectivement de regrouper en fait les bureaux et les services qui étaient un peu éparpillés au sein du ministère dans un commandement de l'espace qui lui serait hébergé par l'armée de l'air, désormais, qui devient à terme l'armée de l'air et de l'espace, qui est appelée à devenir à terme l'armée de l'air et de l'espace. On est dans une démarche quand même différente de la Space Force américaine, parce que souvent la comparaison est faite, où là, la Space Force, il s'agissait de créer une armée de l'espace. Mais non, ce sur quoi je veux insister, c'est, et souvent la question est posée, il n'y aura pas de soldats dans l'espace. Enfin, il ne s'agit pas de faire des troupes spatiales. C'est vraiment une prise en main, une implication plus grande des acteurs militaires au sol, qui font du contrôle spatial, de leurs moyens. Parce que il y a ces incertitudes croissantes dont on attend de passer. On a aujourd'hui 2000 satellites actifs en orbite à peu près. On se dit que d'ici 10 ans, il y en aura beaucoup plus que ça, peut-être 8000, peut-être 10000, sur des orbites qui sont finalement les plus utiles. Donc ce ne sera pas n'importe où dans l'espace. Et donc il y a des endroits qui sont stratégiques où là, effectivement, les militaires, les gouvernements aujourd'hui cherchent à mieux se protéger et à mieux savoir ce qui se passe. Et ça, c'est le but de cette organisation.
On peut plus en passer de cette idée là de tout coordonner et d'avoir, parce que c'est ça, un commandement unifié.
Le principe, c'est que l'espace aujourd'hui, c'est vu, c'est accepté, c'est admis comme un vecteur de souveraineté en réalité. Une souveraineté militaire, bien sûr, mais et du coup de souveraineté de décision politique. Et du coup, protéger ces satellites, c'est quand même protéger cette capacité à savoir ce qui se passe et à avoir ses propres informations plutôt que de dépendre de celles, y compris d'alliés. Donc c'est quand même cette liaison qui est faite entre la protection des satellites et la notion de souveraineté.
Philippe Hénarajos.
Oui, il y a beaucoup d'enjeux dans l'espace, ne serait-ce que la géolocalisation. Ce sont des systèmes militaires au départ, donc effectivement, il y a une peut-être une crispation qui se noue aujourd'hui, et en tout cas, ça montre un regain d'intérêt stratégique pour ce lieu-là, parce que c'est de là que seront contrôlés, bien sûr, l'orbite, etc. Mais ce contrôle-là va permettre de contrôler ce qui se passe aussi sur Terre et d'avoir ces informations et d'avoir sa capacité à opérer sur Terre.
La France est suffisamment armée, outillée, Xavier Pascaux ?
Alors, je le disais, alors la France est l'un des seuls pays qui dispose de moyens autonomes de surveillance de l'espace. Ça, c'est déjà important. Ça reste des moyens limités aujourd'hui, qui existent depuis 2005, qui sont opérationnels, mais qu'il faut évidemment améliorer, et améliorer de manière accélérée, parce qu'en fait, les changements dans le domaine spatial, par exemple, on passe de satellites qui font une tonne à des satellites qui font quelques kilos, donc la taille eh bien, compte, et quand on n'arrive plus à voir les satellites, alors qu'ils sont très performants, qu'ils bougent de plus en plus, ils sont manœuvrants, eh bien, à un moment, on ne sait plus ce qui se passe.
Quoi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire un satellite de quelques kilos?
Alors, typiquement, ce sont des satellites qui peuvent, Philippe l'a cité, par exemple, se rapprocher d'un autre et brouiller quelque chose. La difficulté, quand vous avez un satellite qui ne marche plus, c'est de savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'est une panne? Est-ce que c'est un débris qui lui est arrivé? Il y a aussi la notion de débris dont on n'a pas parlé, mais qui est de plus en plus majeur. Et puis, ou est-ce que c'est un mouvement intentionnel, j'allais dire, un acte hostile? Donc voilà, il y a cette dynamique qui est quand même maintenant très présente dans les états-majors. Il y a 20 ans, l'espace n'avait pas autant d'importance pour, j'allais dire, les militaires opérationnels sur le terrain. Maintenant, ça change un petit peu.
Merci Xavier Pascaux. directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur d'un essai aux éditions du CNRS, publié en 2017, sur le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space, dont on a parlé abondamment ce matin. Philippe Hénarejos, vous restez avec nous. Nous serons rejoints après le journal de la culture de Matteo Caranta par Philippe Malguir, commissaire d'une exposition très intéressante sur la Lune en ce moment. Elle est visible au Grand Palais à Paris.